Egun andeneri, bonjour à toutes et à tous, c'est à Ongi Etori dans ce nouveau podcast du groupe citoyen Elgarrekin. L'association Elgarrekin se dirige tout droit vers les prochaines élections municipales, puisqu'elle a décidé de soutenir et de composer autour de la majorité municipale actuelle une liste qui est menée par l'actuel maire du Rugne, Philippe Aramendi. Et justement, l'objectif de ce podcast, c'est de vous faire découvrir à vous, les Ourougnards, de vous faire connaître les membres de ce groupe. Et je vous propose aujourd'hui de discuter avec une figure connue auprès de beaucoup d'Ourougnards, Daniel Bideondo Baron. Daniel, Egunon.
Egunon.
Alors Daniel, tu es né à Urugne en 1956, il y a quelques années déjà donc. Et tu as grandi au bourg d'Urugne, dans la maison familiale paternelle, Etchetiki, juste en face de l'hôtel Mendibishta, pour ceux qui connaissent. Et quand tu avais 10 ans, vous êtes installé dans le quartier Aristeguia, où tu vis encore aujourd'hui. Alors, la question qu'on se pose souvent, nous, les personnes de notre génération, c'est comment c'était avant, comment c'était Urugne des années 60-70.
Alors, si je prends d'abord de mon enfance sur la place, je dirais que nous étions un quartier où on vivait tous ensemble, en fait. Les enfants étaient dehors. Le paysage du Rugne a changé parce qu'il n'y avait pas d'autoroute. Il y avait très peu de voitures. Donc, nous étions toujours en train de jouer dehors. Et les mamans s'organisaient sur la cour de Kondye Baïta où elles tricotaient, quoi. On vivait tous ensemble, la solidarité. Je me souviens, ma famille a été la première à avoir un réfrigérateur. Et le dimanche, les voisins venaient chercher les glaçons pour faire l'apéro. Oui. Bon. De la même façon, nous, on n'avait pas la télévision. Et j'allais voir chez le voisin le feuilleton Rintintin, là, tous les jours, pendant les vacances. Oui. Et ben voilà, on vivait les uns et les autres, et ensemble. Quoi.
On était moins, mais on vivait
voilà.
Beaucoup ensemble.
Après, pour ce qui est des années 68, 70, comme tu me le demandes, il y avait plus de commerce à Urugne. Il y avait le restaurant du Fronton. Il y avait le restaurant de la mairie à Cartaïta. Il y avait chez Potioco.
Il n'y avait pas de gros supermarchés, mais il y avait beaucoup
y
de
avait,
plus petits.
Il y avait la boucherie actuelle. Elle était chez là où il y a Carmen maintenant. Il y avait la boucherie Lascano. Là où il y avait Jean-Paul Routier, il y avait Marianne de la COP. Il y avait la Guyane et Gascogne. Bon, voilà, il y avait plus de vie à Urugne. Mais les jeunes aussi fréquentaient les bars.
Oui. Mais lors de ton enfance, tu dis avoir baigné dans une éducation catholique. Par quoi est-ce que cela se traduisait-il au quotidien ?
Ah, déjà au quotidien, on faisait la prière à chaque repas. Tous les dimanches, on allait à la messe. Il y avait la messe et il y avait les vêpres. Et là, je ne parle pas de tout ce qui était Semaine Sainte avec...
La religion occupait une place centrale quand même au quotidien.
Place centrale. Après, ma mère,
dans le foyer.
Elle faisait partie aussi du Secours catholique, donc elle était déjà assez dynamique et empreinte. Elle était toujours en train de batailler pour aider les autres, je dirais, quoi.
Et tu disais aussi que ta mère, tu penses qu'elle était, qu'elle avait une pensée déjà féministe avant l'heure, on va dire. Comment est-ce que tu t'en es rendu compte de ça?
D'abord, on était 4 enfants. Moi, j'étais la plus jeune, mon frère l'aîné. Et mon frère, il a eu la même éducation que les filles. Enfin, les filles, il n'y a pas eu de différence d'éducation. Il participait aux tâches ménagères, il faisait comme nous. Après, ma mère était une autodidacte et son refrain, c'était ses enfants. Elle voulait absolument que ses enfants suivent des études, parce que pour elle, c'était important dans le palier social, quoi. Et c'était important de...
Mais durant la semaine, en plus, elle était assez libre, on va dire. S'occupait de vous seule, comme elle avait envie de s'en occuper.
Elle faisait aussi des heures de ménage pour renflouer un petit peu la caisse. Et c'est vrai qu'elle nous a pratiquement élevés, parce que mon père était absent du lundi au jeudi, parce qu'il était transporteur. Enfin, il travaillait pour un transporteur, il allait chercher le poisson à Concarneau. Et donc, c'est ma mère qui menait le budget. Moi, je me souviens de ma mère disant à mon père, va chercher le salaire, il sent en retard. Enfin, c'est elle qui menait... la maison, quoi.
Mais oui. Et donc, tu as fait ta scolarité d'abord à Urugne, puis ensuite le secondaire à Saint-Jean-de-Luz, comme beaucoup d'Ourougnards d'aujourd'hui. Ensuite, tu dis avoir suivi des études classiques, des études d'infirmière à Bordeaux, puis à l'école des cadres à Paris. Or, je connais quand même quelques personnes de ta génération. Est-ce que tu penses vraiment qu'à ton époque, c'était un cursus classique ?
Non, c'était pas un cursus. Quand je réfléchis, non, parce qu'on était peu, quand même, beaucoup du bourg, mais peu à aller accéder au secondaire, enfin au
donc
collège.
Déjà, il y avait un gap entre le primaire et le secondaire.
Oui, déjà, d'accord. On allait au certificat d'études. Et d'ailleurs, je ne remercierai jamais assez ma mère parce qu'en 7e, on disait 7e, là, c'était en CM2. L'Institut voulait absolument que je redouble et que j'aille au certificat d'études. Et ma mère avait dit non. Elle lui avait dit, mais vous ne ferez jamais rien de cette fille. Et elle voulait absolument que j'aille au certificat d'études. Ma mère avait dit non, elle m'avait mis à Saint-Joseph. Donc j'ai redoublé ma 7e à Saint-Joseph. Et après, j'ai fait les études. Mais c'est vrai qu'on était peu à prendre le bus. Il n'y avait pas d'ailleurs de bus scolaire. C'était transport normal, quoi.
Et ensuite, Bordeaux après puis Bordeaux, Paris. Donc j'imagine une découverte aussi de
Bordeaux,
la grande ville.
Oui, découverte de la ville que je ne connaissais pas, de la liberté, de se gérer soi-même. Et
une
de
forme
vivre,
d'émancipation aussi,
voilà,
d'ailleurs.
Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait.
Et donc, justement, ensuite, tu as été infirmière cadre de santé pendant toute ta carrière, dont 28 ans auprès des personnes présentant différentes formes de handicap. Tu as été déléguée syndicale, tu as participé au début de l'association Euskadi Sénégal pour faire face à des pics de paludisme. Durant la période du Covid, tu as accompagné une équipe d'infirmières pour monter à Paris en renfort à l'hôpital Garches. Tout cela pour ne parler que de ton engagement professionnel. Alors, quel est le moteur de cette énergie ?
Énergie réelle, je pense que c'est aider l'autre. Mais j'ai toujours vécu dans cette ambiance-là avec, dans ma famille. Et c'était vraiment, oui, aider l'autre. Si on reprend, mon engagement jusqu'à des Sénégal, c'était ça. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on devient infirmière aussi. Donc, oui.
Il y a un événement, quelque chose qui t'a marqué particulièrement durant cette longue carrière ?
Oui, je dirais qu'une autre approche du soin quand j'étais à l'hôpital Marin, il y avait une cadre sup qui nous faisait travailler, mais je pourrais la nommer parce que j'ai beaucoup apprécié le travail que j'ai fait avec elle, c'est Antonia Sousta, qui nous a fait travailler les valeurs philosophiques du soin infirmier en fait, et la notion du prendre soin, quoi. Prendre soin le patient, enfin quand on disait le patient, la personne soignée, dans sa dimension globale et pas simplement dans un organe qui ne fonctionne pas et qu'on soigne, quoi. Et ça a été pour moi une réflexion et toute ma vie, je dirais, de cadre, je l'ai menée en fonction du prendre soin auprès du patient, mais aussi auprès du soignant. Parce que si le soignant n'est pas bien,
c'est beaucoup plus difficile de l'aider à soigner son mal. Alors avant de poursuivre, je te propose de passer à notre jeu, le plutôt ça ou plutôt ça. Le principe est simple, je te donne deux propositions, tu dois en choisir qu'une seule. Tu peux évidemment te justifier, car choisir c'est renoncer. Alors c'est parti, on commence gentiment. Plutôt un après-midi à la plage ou une randonnée en montagne ?
Randonnée en montagne.
Un coin en Urum où tu aimes te ressourcer ?
Oui, le Mandalay, j'aime bien aller dans ce coin-là, le Choldo, le Mandalay.
Plutôt été ou hiver ?
L'été, j'aime pas le froid.
Plutôt cuisiner un plat local ou découvrir une nouvelle cuisine du monde ?
J'aime beaucoup cuisiner, donc peut-être cuisiner un plat local, je sais pas si c'est très local, mais oui.
Et celui que tu maîtrises parfaitement alors ?
Maîtrise parfaitement, non. Je sais pas, j'aime bien le merlu Koshkela, par exemple.
Très bien, on viendra le tester. Plutôt faire ses courses au Hall de Saint-Jean-de-Luz ou dans une épicerie participative ?
Je fais partie de la Runcop, donc dans une épicerie participative.
D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans ces lieux ?
Mais déjà, avoir accès aux produits, je dirais, locaux ou aux produits de qualité, enfin de qualité, même si ce n'est pas un critère, la qualité, mais les produits bio, locaux, et rencontrer les gens. Puis, petite épicerie où on n'est pas tenté d'acheter ce qu'on n'a pas besoin.
On y va avec sa liste et on essaie, et voilà. On s'y tient. Voilà. Plutôt un repas entre amis ou une soirée au calme ?
Mais ça dépend de mon humeur, du moment, de la saison. J'aime bien les deux, j'aime bien beaucoup.
Ouais, de la saison.
J'aime bien un bon bouquin, tranquille, et puis j'aime beaucoup aussi, entre amis, faire un repas.
Chanter, plutôt sur scène ou à l'église ?
Le répertoire n'est pas le même. Les chants sacrés dans une église, c'est très beau, ça donne beaucoup d'émotions. Et les chants dehors, c'est souvent des chants en groupe, spontanés, de fête, que j'aime beaucoup aussi.
Et pour finir, voyager, plutôt seul ou en famille ?
Non, en famille, partage en famille.
En famille ? Dernier voyage ?
Dernier voyage en Camargue.
En Camargue. Eh bien, merci beaucoup. On continue. On va parler maintenant de ton engagement à Urugne. Tu nous as dit tout à l'heure avoir grandi dans un environnement catholique. Et j'ai appris d'ailleurs, en préparant cet entretien, que tu as participé à des sorties en camp organisées par les Amis de la Jeunesse, une association en lien avec la paroisse. Que retiens-tu de cette expérience ?
Très bonne expérience. Enfin, j'étais rentrée parce que mon mari étant libre, Thiotis Salubert, qui animait à ce moment-là les camps, lui avait demandé de participer, de l'aider à monter un camp, notamment un séjour en montagne d'une semaine. Et il se trouvait que moi, j'étais en vacances à ce moment-là et je n'avais vraiment pas envie d'être seule. Et Thiotis m'avait dit, tu n'as qu'à venir avec nous, puis tu feras infirmière, puisque tu es infirmière. Donc, j'ai participé à ces camps de les Amis de la Jeunesse dans ce cadre-là. Des camps fort sympathiques, les jeunes du Rugne pouvaient aller en vacances, expérimenter des activités qu'ils ne connaissaient pas, notamment la montagne, quoi.
Oui, vous partiez surtout en montagne, c'est ça ?
Alors, ça dépendait, mais on partait en Soule, en Basse-Navarre. Avec des activités, je dirais, de rafting, de marche, ça dépendait.
Vous partiez longtemps ?
Alors, souvent, c'était des camps de 2 semaines, avec une visite des parents possible le dimanche, et les parents arrivaient avec des victuailles et des boissons, et on passait une très bonne journée tous ensemble. Voilà.
Alors parlons à présent de ta vie associative à Urugne. Il y a bien longtemps, avec 6 amis, vous avez créé l'association ASIA. Tu peux nous parler déjà de cette époque et puis ensuite de cette association ?
L'époque était une époque, je dirais, riche en actualité, parce qu'il y avait le procès de Burgos, il y avait les premiers réfugiés politiques, il y a eu aussi, quelques années après, l'arrestation de Chan Marguiro, où des comités Chan se sont organisés partout, et on a commencé quand même à prendre conscience de beaucoup de problématiques, notamment de l'identité basque. Mais dans ce cadre-là, nous étions plusieurs copines de la place à Urugne.
Vous aviez à peine 20 ans ?
On n'avait même pas 20 ans. Non, on n'avait pas 20 ans. Et on s'est dit, on va nous aussi commencer à faire des activités. Alors on a commencé à faire, je me souviens, on a fait venir Kouktaldea et la salle de Chachmendi était pleine. Et après, peu à peu, on s'est dit, mais on va s'organiser en association, on va promouvoir l'identité basque et la culture basque.
Parce que vous répondiez vraiment à une réelle demande, en fait.
Voilà, oui. Et on a fait des semaines culturelles, on a fait des concerts. Les relations avec la mairie n'étaient pas très faciles. Bon, on n'était pas très nombreux parce qu'on était toujours aussi catalogués, je dirais, d'un Batasikignac. Et c'est ce qu'on disait de nous aussi, certains.
Oui,
quoi.
Certains.
Mais bon.
Mm-hmm. Aujourd'hui, cette association, elle vit toujours. Elle organise d'ailleurs le carnaval à Urugne, à Outeria. À ton avis, qu'est-ce qui fait que cette association est toujours très active à Urugne ? Pourquoi elle a duré autant de temps ?
Mais parce qu'elle correspond à un besoin aussi, je pense, d'Urugne. Bon, elle, c'est entre guillemets, son activité phare est le carnaval. Le carnaval à Bourdin. Il y a eu les Mouchikos et tout ça. Mais je pense que ça correspond à une demande d'identité. Enfin, Urugne a toujours été empreinte d'une forte identité culturelle. Moi, je me souviens, mon père, mon frère, déjà participé à des pièces de théâtre. Le groupe théâtre était très fort à Urugne. Je pense qu'il y a une forte identité culturelle à Urugne et ça correspond à ce que veulent les Urugnards.
Et alors aujourd'hui, tu es membre de la chorale Kantauri Abeshbatsa. Tu as toujours chanté dans ta vie ?
Ma mère chantait toujours. Elle nous prenait sur les genoux en chantant. Les repas de famille se terminaient toujours par le chant. Et donc, à un moment donné, moi, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime chanter. Et je me suis dit, je vais chanter pour moi. Et donc, je suis rentrée quand Kantauri s'est montée à Urugne, il y a maintenant, en 2011, je suis rentrée à Kantauri pour chanter.
Alors, petite question philosophique. Le chant permet-il de se retrouver ou plutôt de s'évader ?
Personnellement, pour moi, c'est s'évader, oui. S'évader, puis en même temps, c'est un peu un sport, le chant, parce que on fait travailler la respiration, la posture, parce qu'on ne chante pas le dos voûté. Et en même temps, on se détend, quoi. Les tensions, là, elles retombent quand on chante. Et après une répétition, on est je pense, bien, quoi.
Ouais, c'est presque une forme de thérapie, quoi.
Ce qui n'empêche pas que le côté convivial est important aussi dans une thérapie. Et puis Kantauri est intéressante parce que la chef et de l'autre côté. Et bien souvent, on a des relations avec des chorales de Navarre, d'Incancy, les Chaka, Elizondo, et on vient en soutien les uns aux autres pendant des concerts.
Vous chantez ensemble. Voilà. D'accord. Et enfin, concernant ton engagement au sein du groupe Elgarikin, on peut dire que tu es présente depuis le début de cette démarche citoyenne en 2018 et que depuis 2020, tu es adjointe à la cohésion sociale, au logement, aux seniors et à la santé. Un projet ou une action qui t'a particulièrement marqué lors de ce premier mandat ?
Alors, j'en citerai peut-être plus qu'un, mais d'abord le premier, Goshotoki, le lieu de socialisation pour les personnes seniors. Après, je parlerai de la création du service Petite Enfance, avec le relais Petite Enfance qu'on a créé, Urbidaya, avec Biriatou et Andai. Et pour terminer aussi, moi, ce qui m'a beaucoup plu, ce sont des initiatives citoyennes, parce que je crois beaucoup aux initiatives justement citoyennes. Il y a deux personnes qui sont venues me voir pour mettre en place des projets qu'on a pu. Un, c'était la bourse jouée. Pour la deuxième année, cette année, ça a très bien marché. Il faut qu'on continue. Et une autre citoyenne était venue nous voir aussi pour le don d'organes, pour que Urugne fasse partie des villes ambassadrices de don d'organes. Et on a pu aussi mener ce projet-là. Et je trouve que ce sont des initiatives citoyennes intéressantes.
Mmh. Et justement, si la liste citoyenne Elgarikin est de nouveau majoritaire à la suite des prochaines élections municipales, quelles sont tes priorités pour les Urugnards dans ce domaine-là ?
Je pense qu'il faut tout d'abord réévaluer l'analyse des besoins sociaux en y intégrant toutes les données qu'on a pu avoir du plan de cohésion sociale qu'on a initié pendant ce mandat. Plan initial et qu'il faut décliner maintenant sur des feuilles de route annuelles, je dirais, puisque ce sont quand même c'est une initiative intéressante. Et je dirais après... avoir l'œil très attentif sur des faits nouveaux, sociaux, notamment sur la précarité avec des jeunes qu'on retrouve qui dorment dehors ou dans des voitures. Pourtant, ce sont des jeunes qui travaillent, mais qui n'ont pas accès au logement. Alors attention à ça, quoi.
Très bien, Daniel. Mileshkerainitz pour cet entretien très inspirant. Et on se retrouve très vite pour découvrir d'autres membres de la liste Elgarikin. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site Elgarikin Uruna 2026.eus. Mileshker Daniel.
Mileshker Swede. Allez, adieu.
Adieu.